Parce que chaque ordre répressif organise notre asphyxie, l'équipe de Bras Zéro s'est penchée sur des tranches de vie qui racontent les violences sociales et les résistances à celles-ci, sous fond de Covid-19 et d'état d'urgence sanitaire.
Car nous tentons de ne pas confondre confinement et enfouissement de nous-mêmes, car il est important de rester éveillé et vigilant, le cœur fort et les poings fermés.
Au cours du mois d'avril, ont été dénombrés 13,5 millions de contrôles, 762 106 verbalisations, 1733 gardes à vue, des peines de prison ferme pour non-respect du confinement, des dizaines de blessés graves et 6 crimes policiers.
La violence, policière et sociale, va de plus en plus loin. Mais la colère gronde et il y en a qui luttent.
On est lundi, il est 19h, on est toujours confinés,
c'est le cinquième épisode
de Bras Zéro Corona.
Bon
ramadan à celles et ceux qui jeûnent.
En mai,
fais ce qu'il te plaît, dans le respect des gestes barricades.
Bonne écoute sur Canal Sud.
En ce temps où le « restez chez vous » résonne comme la solution à tous les maux, l'état d'urgence sanitaire que la police se charge de faire respecter du bout de sa matraque fonctionne comme une porte ouverte pour les violences de plus en plus nombreuses. Gardons les yeux et les oreilles bien ouverts.
Ce qui a changé ou pas, en fait, ce que les comités Vérité et Justice, les collectifs engagés contre la violence policière et un petit peu tous les observateurs dans les quartiers populaires et en même temps les gens qui sont en lutte dans les CRA, contre les prisons, etc. Toutes les infos qui sont mises en commun tendent à montrer qu'il y a plutôt une reproduction de pratiques et une continuité en termes de, disons, de surveillance, de contrôle, de répression dans les quartiers populaires en particulier, et puis dans la plupart de ces territoires-là, quoi. En même temps, il y a aussi une intensification, c'est évident. Il semble que ça réagit au fait que, avec le confinement, ça bouleverse le rapport de force dans la rue, et du coup, les unités de police les plus féroces, les plus habituées, les plus dressés à pratiquer de la chasse et de la capture, et s'en donne à cœur joie. Mais c'est pas non plus un lâchage total. Hein, c'est organisé. Si des hiérarchies politiques avaient pas, voulaient pas laisser ce type de pratique proliférer, il suffirait d'empêcher ces unités de pratiquer dans ces quartiers-là, etc. On voit des coercitions contre les femmes, contre des femmes non blanches dans les quartiers populaires. Qui sont encore une fois des choses qui existaient avant, même si en général les femmes étaient plutôt concernées par des injures, des humiliations et des violences indirectes, comme le fait de devoir supporter dans l'espace domestique ou simplement le soutien aux prisonniers ou la lutte pour la justice, pour la vérité quand face aux crimes policiers, etc. Et donc là, on a vu une montée en puissance et en visibilité aussi de pratiques policières de coercition contre les femmes des quartiers populaires. Il faut interroger à la fois la colonialité de la société française et puis aussi ce que c'est que la police en tant que telle, c'est-à-dire que c'est un appareil de coercition, c'est un appareil de surveillance, de contrôle, de répression aux mains des classes dominantes et qui est faite pour exercer le contrôle et la domination des classes dominées. Donc dans le contexte actuel, le pouvoir leur donne la possibilité d'utiliser différents répertoires de férocité, mais qui existaient déjà. Voilà, et on voit avec un usage complètement hiérarchisé, complètement différencié en fonction des corps, en fonction des territoires, par rapport au respect du confinement, etc. Et voilà. Et du coup, face à ça, il y a des résistances multiples, diverses, à plein de niveaux. Déjà sur Internet, dans les réseaux sociaux, hein, en termes de visibilisation, il y a un gros travail qui est fait à la fois par les habitants des quartiers populaires, et encore une fois, là je dis par les gens qui sont en CRA, les prisonniers, sur les questions coloniales aussi. Il y a une remontée d'informations, partage et visibilisation. Il y a un gros travail de contre-information, d'automédia qui est fait pour rendre tout ça visible, et du coup aussi des ponts, hein, qui continuent de se construire entre ces différentes luttes. Et puis après, des luttes qui vont à tous les niveaux. Hein, On le voit en fait autour de tout ce qui se passe en termes de solidarité alimentaire, etc. Enfin, là, je parle dans les quartiers notamment et aussi autour des foyers d'immigrés. Et ben, on voit qu'il y a aussi une résistance aux violences policières qui va jusqu'à ce qui se passe dans la rue où maintenant il y a un peu plus d'une semaine, on a eu 3 nuits de suite de révolte dans les quartiers populaires. Ça dépendait des nuits, en tout cas la première nuit dans au moins plus d'une quinzaine de villes et qui étaient des révoltes explicites. Explicitement dirigé contre les violences policières, contre la police et pour les dénoncer. Et voilà, du coup, il y a ça, c'est des résistances aussi. Et puis, des résistances, il va y en avoir à construire sur ces questions-là encore une fois, parce que là, effectivement, si ces révoltes, elles sont venues marquer le retour un changement en termes de rapport de force dans la rue, en tout cas, la volonté de ne pas laisser à la police la toute puissance. Il y a, de toute évidence, un plan de répression qui se prépare et qui va être très, très dur, où la police est en train d'éplucher tous les réseaux sociaux, Instagram, Snap, etc., de récupérer les empreintes génétiques sur les trucs qui ont été lancés, etc. Enfin bref, parce que là, il n'y a pas encore eu de grosses vagues de rafles, mais c'est évident que ça va arriver, et du coup, là, il faudra être présent, il faudra du soutien. Tous les gens qui se sont dit solidaires des révoltes, il faudra être présent pour appuyer. Voilà, mais du coup, des résistances d'un peu partout, multiples et diverses. Et à ce sujet-là, les gens qui s'intéressent peuvent aller voir un peu le travail qui est fait, notamment par les collectifs de militants, par exemple des gilets noirs, de militants anticarcéraux, prisonniers, militants des quartiers des immigrations, des militants anticolonialistes, anti-impérialistes qui sont regroupés, qui ont fait un observatoire de l'état d'urgence et du coup qui publie un rapport. Il y en a un qui est déjà publié sur le site acta.zone et il y en a un deuxième qui est en cours de fabrication. Et donc voilà, un rapport qui donne et des pistes d'analyse et puis des pistes pour organiser la solidarité, pour organiser les résistances.
L'introduction du rapport de l'observation de l'état d'urgence explique les démarches collectives qui ont mené à ce texte. Il et elle sont des militantes des quartiers populaires et des immigrations, membres des Gilets noirs et de la Chapelle debout, militantes autonomes, communistes et anarchistes, militantes féministes et antiracistes, militantes antifascistes et anticarcéraux, militants anticoloniaux et anti-impérialistes, principalement à Paris et à Toulouse. Il et elles ont décidé de coordonner des enquêtes, chacun dans leur secteur de lutte et de vie, avec les personnes concernées, pour mettre en commun les données et proposer des analyses collectives, dans le but de renforcer les expériences d'entraide populaire et de nourrir les luttes d'aujourd'hui et de demain. Ils et elles ont défini 6 secteurs d'enquête qu'ils pensent comme un seul champ de lutte. Les territoires colonisés, les quartiers populaires, les prisons, les centres de rétention administrative, les foyers d'immigrés et les établissements sociaux et médico-sociaux. Ils ont établi un protocole d'enquête, une liste de questions pour mener des entretiens et des pistes de recherche. Chaque groupe a enquêté de manière autonome, puis a restitué ses données aux autres groupes, ce qui a permis un croisement des analyses. Il s'agit de comprendre ce qu'il se passe durant cet état d'urgence sanitaire afin de renforcer et coordonner les solidarités et les résistances populaires. Le texte est à lire sur acta.zone.
J'aurais pas été étonné à ce moment-là, c'est vrai, de trouver un dictionnaire et de trouver prison, endroit où il faut s'évader, quoi. Je trouve que ça n'est vraiment comme ça.
On nous.
Oh là, allez, on se calme. Arrêtez la musique. Allez, on se calme. Et donc, si c'est le chef ici, c'est pas l'ordi. Bon.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous croiriez à Euro Disney? Très bien que vous ne pouvez pas monter sur les toits. Alors il faut descendre.
Ça va, là, on fait rien de mal.
Il ne s'agit pas de faire rien ou de pas faire. De toute façon, il faut descendre, c'est tout.
Ah, mais ça va d'où? Des coulisses, c'est d'où?
Eh, je peux descendre.
Et là, mais c'est quoi? Oh, Notre-Dame, là, c'est quoi? C'est la seule phrase qu'on t'a appris à l'étable ou quoi?
Arrêtez!
Un peu de silence!
En toute façon, c'est pas la peine de discuter!
Putain, le moins!
Vous pouvez pas rester ici! Alors maintenant, vous prenez vos petites affaires, vos petits fauteuils et vos petites merguez, et vous laissez, on descend tous dans la joie et la bonne humeur.
D'accord, brigadier!
C'est bon. Tu vas t'y prendre comment pour nous faire descendre? C'est chiant, tu vas le faire tout seul dans ton petit costard.
Ces choses-là, pour moi, ça n'existait pas, quoi. C'était une vaste fumisterie, quoi, cette histoire de justice. Il y a les gens qui commandent la société et il y a les pauvres gens en dessous. Moi, je faisais partie des pauvres gens. C'est-à-dire les gens qui n'avaient aucun pouvoir, rien, etc. Et j'étais qu'un fils de rien.
même temps, la colère gronde chez les caissières du groupe Auchan. Les promesses du gouvernement ne sont toujours pas tenues. La résistance s'organise.
3, 2, 1, ouverture.
Laetitia et la team caisse ont réalisé un tract de grève. En voici la lecture. Nous avons eu connaissance des modalités de versement de la prime évoquées par notre gouvernement. Comment osez-vous tant de mépris ? Pensez-vous que nos efforts chaque jour, l'abandon de vacances, les heures supplémentaires, le stress, la polyvalence du personnel, les attaques des clients aient cette valeur ? Que la vie de nos familles confinées que l'on met en danger chaque jour ait cette valeur ? Nous sommes le 1er avril, et si ceci n'était pas si pathétique, nous aurions pu en rire. Le groupe Auchan Retail a annoncé 1000 euros de primes, le groupe Carrefour également. Et cela publiquement et médiatiquement. Comment imaginez-vous que nous allons accepter sans réagir une telle proposition ? Chaque salarié présent dans les différents magasins mérite amplement cette prime. CDD, CDI, étudiants, mi-temps, personnel encadrant. Le Covid ne choisit pas en fonction de notre contrat pour attaquer. Par conséquent, nous exigeons les jours de grève payés et une prime de 1000 euros net salariés, comme décrit ci-dessus. Nous attendons une réponse sans délai. Sinon, nous annonçons la mise en grève du personnel dès 8h30, le 3 avril 2020.
Commencer là, est-ce que tu peux présenter un peu ton lieu de travail et le situer géographiquement et juste présenter un peu la taille du magasin, etc.
Donc c'est un magasin Auchan qui se trouve à Soultz-sur-Loin. C'est un petit patelin. Je ne saurais pas dire combien il y a d'habitants, mais c'est pas bien grand. Et nous, on a Auchan pour lequel je travaille a ouvert en octobre 2016. Mais alors, il faut savoir que c'est un Auchan Shiver, c'est pas un Auchan France, faut faire attention, parce que souvent les gens ne le savent pas. En fait, on est franchisé, on dépend du groupe Shiver BDMS qui se trouve, lui, à Avalon, en 89. Et on n'est pas un vrai Auchan France, en fait.
Et ce groupe-là, c'est un groupe qui a d'autres franchises, enfin, qui a d'autres
magasins. Ouais. Ils ont d'autres anciennes, ils ont par exemple Weldom, qui a dit, alors, je ne saurais même pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup. Il y a les magasins Attac, qui étaient Attac maintenant, qui sont devenus bien. Flunch, voilà, tout ça, c'est des magasins qui appartiennent au même groupe.
Et vous êtes combien de salariés ?
À peu près 92, 94. Enfin, c'est un peu, on tourne, on n'est jamais 100. On est toujours en dessous, mais on tourne autour des 95, on va dire, à peu près.
Et toi, tu travailles depuis quand ?
Ah, depuis l'ouverture, hein. Moi, j'étais là même avant qu'il ouvre, et donc moi j'ai commencé le 1er octobre officiellement dans la boîte, et on a ouvert le 16, donc...
Du coup, toi, t'es hôtesse de caisse ?
Moi, je suis hôtesse de caisse.
T'as un mandat syndical, c'est ça ?
Ouais, moi je suis DP et DS, je suis aussi secrétaire du CSEC, également, donc membre et secrétaire du CSEC. Et puis j'ai surtout grande gueule et tout le monde, même au siège, le sait et tout le monde le connaît. Quoi.
Peut-être avant de me raconter un peu la grève et ce qui s'est passé, et toi, juste l'impact, comment t'as senti l'impact du confinement sur ton travail ou sur tes. Au quotidien, au travail
Nous, ça a été une catastrophe en fait. Ça a été catastrophe parce que le confinement a été déclaré le 16. Nous, il faut savoir que le 16, on a eu un monde de fous, mais de fous dans le magasin. Donc, un magasin de 5000 mètres carrés, je ne sais pas si tu imagines la longueur qu'il peut faire. Et on avait du monde à chaque caisse, on avait du monde jusqu'au bout du magasin, non-stop de 9h30 jusqu'à midi et demi. Donc, on a vu énormément, énormément de gens. Et au début, donc à ce moment du confinement, la seule chose qu'on avait, c'était du gel hydroalcoolique. C'est tout. Donc, ça a été très, très dur moralement. Ça n'a pas été évident, on va dire. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à mettre des choses en place. C'est-à-dire que je m'en souviendrai, un mercredi à midi et demi, quand tout le monde était parti, ils venaient d'y avoir une réunion de crise et on a vu nos chefs débarquer avec du scotch pour faire du marquage au sol pour que les gens se tiennent à un mètre les uns des autres. Et puis, dans la foulée, enfin, dans les jours, dans les 3-4 jours qui ont suivi, des plexis ont été posés devant nos caisses. Alors, nous, c'est le patron qui les a posés, mais il a, franchement, je ne peux pas dire du mal parce qu'il a assuré, il nous a mis des plexis qui font 1m50 de large sur 1m20 de haut, quoi. C'est vraiment, c'est pas la petite plaque de plexi, hein. C'est vraiment, il a fait en sorte que quand le client est un bout du plexi, il y a 1 mètre entre lui et nous.
Et toi donc, ou tes autres collègues, il y avait une inquiétude qui était déjà présente sur la question de d'être contaminé ou au travail?
Assez rapidement et moi je suis rentrée dans le direct parce qu'en fait nous notre directeur est en vacances et il est rentré en catastrophe le mardi ou mercredi suivant et très vite moi j'ai dit c'est pas possible. En plus on avait un collègue qui avait une suspicion qui a été avérée par la suite négative mais dès le départ suspicion. Donc, je me souviendrai de l'avoir demandé, mais qu'est-ce qu'on fait si lui, il est positif? Et après, il m'a répondu, on improvisera. Et là, je me suis fâchée, mais vraiment, vraiment. Quand j'ai vu mon patron, quand il est revenu de vacances, c'est vrai qu'on s'est rentré dans. C'est la première fois, lui, il est normand. Moi, je suis d'origine bretonne. Donc, à chaque fois, nous, ça fait des étincelles graves. Et donc, on s'est pris d'aide. Et je lui ai dit qu'il était hors de question qu'on travaille dans des conditions comme ça, qu'il fallait mettre en place. Donc, voilà, donc ça a été, pas parce que j'ai gueulé, hein, c'est pas non plus ce pouvoir-là, mais en fait, tout ce que j'ai réclamé en râlant à ce moment-là, ça a été mis en place par la suite. En fait, c'était, ils l'ont prévu, mais ils ont tout fait. Le problème, c'est que tout a été fait, un peu comme notre gouvernement, au coup par coup, sans anticipation, parce qu'en fait, personne ne savait trop où il allait, mais du coup... Le problème, c'est que nous, on baignait dedans. Enfin, c'est comme tu jettes un bœuf à l'eau, puis tu lui dis, bah attends, je vais t'apprendre à nager. Bah ouais, mais pendant ce temps-là, moi, je risque de me noyer quand même à un moment donné. Je veux bien que tu m'apprennes à nager, mais je suis moi au moins débrouillée, quoi. Donc, nous, ça a été dur parce qu'on venait bosser, et ça continue, hein. On bosse avec la boule au ventre, avec la trouille, avec les gens qui sont mais c'est de la folie, quoi. Les humains n'existent pas, hein, ou très peu, hein. C'est des gens qui viennent pour acheter 4 bricoles et qui en plus se payent en liquide alors qu'on a beau leur bassiner que c'est des achats d'utilité qu'il faut et qu'il faut éviter de payer en espèces. Il faut l'encaisser, en fait, parce que ces gens-là, quand ils vont rentrer dedans, ils vont dire, mais tu te rends pas compte que moi, je risque ma vie pour tes conneries, quoi. Tu mets ma vie en danger pour des bêtises. Et du coup, très vite, moi j'ai dit à mon patron, je lui ai dit, sachez quand même que chaque client qui rentre dans le magasin, pour nous, c'est une balle, c'est une arme. Et je lui ai dit, certains vont tirer à blanc et certains vont tirer à balles réelles. Et c'est surtout ça qui nous fait peur. Voilà. Et c'est vraiment ce sentiment, en fait. Alors, nous, on acceptait de venir bosser, bien sûr. Alors, certains diront, on n'a pas le choix. À un moment donné, on a toujours le choix. On a le choix de se mettre en arrêt. On a le choix. Mais bon, alors, nous, en ligne de caisse particulièrement, on est une équipe très, très unie. Tout, on s'appelle la team caisse. Hein. C'est une vraie team. Et puis, c'est parce qu'on est unis qu'on est restés, qu'on est toutes restées sur le boulot, mais c'est vrai que même à l'heure actuelle, la patience, on n'en a plus. On est tout à fleur de peau, voilà.
Les insultes sur ma silhouette, crois pas que je les accepte depuis enfant, je les entends, je déteste les gens, j'ai toujours serré les dents, jamais baissé la tête, laisser qu'on me maltraite pour crever l'écran. Cette vie pleine d'un système qui t'a promis des chaînes et des dizaines de règlements ne va pas changer mes plans. Cette vie pleine d'un système qui t'a promis des chaînes et des dizaines de règlements ne va pas changer mes plans. Je suis taciturne, lassé. Je sais que c'est le temps qui juge, qui ment et qui dit juste. Et mon regard, il est glacé. Si c'est sans issue, je vais rire comme on n'en rit plus. Du pire et du temps fichu. Avant, moi-même d'y passer. Qu'on m'aime, quand même. Qu'on me maudisse et me condamne. Mais que personne ne me dise qu'il faut que je change pour sauver mon âme. Qu'on m'aime, quand même. Qu'on me maudisse et me condamne. Mais que personne ne me dise qu'il faut que je change pour sauver mon âme. J'ai ma complice, ma complice. J'adore les miens. La marge est ma complice, j'adore les miens complices. La marge est ma complice, j'adore les miens complices. La marge est ma complice, la marge est ma complice. La marge est ma complice, j'adore les miens complices. La marge est ma complice, j'adore les miens complices. La marge est ma complice, j'adore les miens complices. La marge est ma complice.
choisit pas sa taille. On ne choisit pas le sens du vent. On ne choisit pas la pluie. On ne choisit pas le soleil.
On ne choisit pas son voisin.
Sa voisine. Ni même le nom de sa rue.
Mais pour ce qui est de la vie de tous les jours, c'est important de pouvoir
choisir. Voilà pourquoi Auchan vous offrira toujours le meilleur choix et toujours au meilleur prix. La vie Auchan,
elle change.
Est-ce que vous avez débattu ces dernières heures avec le président d'une possible prime qui récompenserait, entre guillemets, ceux qui continuent de travailler dans cette crise, Bruno Le Maire? Est-ce que c'est sur la table?
Oui, bien sûr. Bien sûr, et je rappelle, mais ce qui est déjà sur la table, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qu'on accorde intéressement, et c'est le cas de quasiment toutes les grandes entreprises, par exemple de la distribution, de l'industrie agroalimentaire, elles peuvent verser une prime totalement défiscalisée, totalement désocialisée, donc qui ne coûte rien de plus à l'entrepreneur que ce qui est versé de 1000 euros. Jusqu'à 1000 euros, c'est complètement défiscalisé et désocialisé.
Et alors, la mise en place de la grève qui a duré...
Ça a été très, très rapide. En fait, ça a été hyper rapide. Quand j'ai été élue secrétaire du CSEC, très vite, j'ai parlé à tout le monde et j'ai dit, écoutez, je vais monter une page et puis on pourra échanger. Ça a été très, très timide. Pendant très longtemps, il ne s'est rien passé. Et puis petit à petit, les gens demandaient comment ça se passe pour les jours fériés, comment ça se passe pour si. Un jour, j'entends un des membres qui met... que l'entreprise nous propose 350 euros, donc c'était 350 euros net pour un CDI à 35 heures, dégressif pour les 30 heures et les 20 heures éventuelles, et c'était valable que pour les CDI, pas les CDD, et on excluait de tout ça les gens éventuellement qui avaient été en congé payé pendant la durée du confinement. Et on avait un bon de 170 euros d'achat, un bon d'achat à utiliser au sein du groupe, donc Auchan, Weldom, Kiabi, etc. Dans les deux mois qui suivaient la distribution de ce fameux bon d'achat, moi quand j'ai su ça, quand je suis arrivée au boulot et que j'ai annoncé aux filles voilà, ce qu'ils veulent faire, elles m'ont dit ah non mais ça va être pas possible, faut faire grève. Mais elles étaient tellement en colère que si j'avais même dit on fait grève tout de suite, elle s'était tout de suite. C'était dans l'immédiat.
Moi, j'invite toutes les fédérations, toutes les grandes entreprises qui ont un accord d'intéressement, notamment dans les secteurs vitaux comme l'agroalimentaire ou la grande distribution, à verser cette prime de 1000 euros totalement défiscalisée.
La proposition de discuter n'était même pas discutée parce que tout le monde, que ce soit les autres magasins comme mes collègues, tout avait entendu que Auchan avait promis une prime de 1000 euros. Donc, les filles, elles ont dit on veut 1000 euros. Il n'y avait pas à chercher à tergiverser, c'est pas on veut ça. Non, on veut 1000 euros. Donc en fait, moi, dans mon tract, c'était on veut 1000 euros. Il y avait. Moi, mon patron, il m'a dit mais s'ils veulent discuter, je dis non, mais il n'y a rien à discuter. On veut 1000 euros. Donc c'était en fait notre seule revendication. Il y avait deux lignes, bien entendu, la première, payer nos jours de grève, et puis donc la demande de prime de 1000 euros. Voilà. Donc ça a été déposé dans tous les bureaux de directeurs de tous les magasins de notre groupe. En fait, on s'est même pas trop posé de questions sur le moment. Sur le moment, c'est on nous propose ça alors qu'on vit ça. Non, voilà. C'était juste. Moi, je leur ai dans mon tract, c'est ce que j'avais marqué. Je leur avais juste marqué que la proposition était indécente. Comment tu peux envisager dire à un salarié, je vais te donner 350 euros brut à la fin, alors que tous les jours tu vas au boulot en disant je vais peut-être crever et puis en plus je vais peut-être le ramener avec moi à la maison. Tu flippes pour toi, tu flippes pour les autres, et quand on t'annonce 350 balles, tu dis non mais sérieux quoi. En fait, c'était plus le côté humiliant qui nous a fait réagir. Ça a été une grande première. Moi, je suis déléguée syndicale que depuis que je suis à Auchan. J'ai 51 ans, je vais avoir 51 de ma vie, j'ai jamais été syndiquée. Donc, bien entendu, je ne sais pas comment on fait pour faire une grève, mais rien du tout. le directeur, notre grand directeur, c'est-à-dire le directeur des hyper supermarchés de chez nous, il m'a contacté avec le responsable des ressources humaines, et ils m'ont appelé l'après-midi en me proposant, alors c'était plus 350 euros net, mais c'était brut. J'aurais dit non, c'est bon, arrêtez avec, voilà. Alors il dit oui, mais vous comprenez, je leur ai dit, vous ne me jouez pas la mélodie des mouchoirs, je dis je la connais. Moi je connais le chiffre d'affaires qu'on a fait le 16 mars, on avait fait 180 000 euros, c'est-à-dire qu'un 24 décembre c'est 140 000 euros, là on avait fait 180 000, donc moi je voyais le débit continuel qu'on a depuis, enfin là ça s'est calmé, mais après le 16 mars ça a été des journées de fou quoi. Le magasin ne désemplissait pas, les rayons se vidaient à vue d'œil, enfin, et surtout on avait du boulot, donc il y avait forcément de l'argent qui rentrait. Pendant ce temps-là, mon patron, bien entendu, a fait le tour des salariés présents à ce moment-là dans le magasin, en leur disant de toute façon, j'ai appelé les flics, demain ils viendront vous aligner. Étant donné que vous serez sur le parking et que les regroupements sont interdits, vous allez tous vous manger une prune de 135 balles, machin. Il leur a foutu la trouille. Et puis après, il leur a dit que de toute façon, ça servait à rien, qu'il fallait négocier, ça servait à rien de faire grève. La grève, c'est ce qu'il devait faire à la fin. Enfin, il leur a monté la tête à certains. Et pour certains, il a réussi. Hein. Il a réussi son coup pour quelques-uns. Parce que moi, il y en a que j'ai vu après, je leur dis, bah, vous étiez où, les gars? Ils m'ont dit, bah, non, le directeur, il nous a dit que ça servait à rien. Depuis quand tu coûtes le directeur, quoi? Donc voilà, et puis, donc on a commencé la grève à 8h30, je lui dis, bah, ils veulent nous arnaquer, bah, bougez pas les filles, on va pas aller sur le parking, on va rester dans le magasin, puisque de toute façon, c'est notre lieu de travail. Donc on s'est mis, en fait, en ligne, en tenant bien notre distance d'un mètre, parce que les flics étaient là, c'est la première fois où, depuis le confinement, il y avait un filtrage à l'entrée pour que les gens fassent pas la queue en caisse et nous voient. Donc, première négociation, on a demandé, alors déjà je leur ai dit, votre bon d'achat, vous le gardez parce que quasi la totalité des salariés ne font pas leurs courses dans le magasin. J'ai dit, ça veut dire que vous nous donnez d'une main et vous reprenez de l'autre, c'est ridicule. Donc voilà, c'est pas intéressant et on leur a dit, non, nous ce qu'on veut c'est de l'argent. On s'en fout de vos bons cadeaux. On est arrivé à la fin à dire, bon, ce sera 600 euros net pour tout le monde. Le virus, il choisit pas un CDD ou un CDI hein, quand il attaque.
Et du coup, ça s'est fini comment, toi qui n'avais pas non plus en plus une grande expérience de grève, vous avez fait une AG pour...
J'ai dit, voilà, on a deux solutions. Soit on accepte leur proposition, on prend les 600 euros net et on en reste là et on a perdu 4 heures. Pour ceux qui devaient bosser, soit on dit non, on stoppe tout, on attend la fin de la pandémie, et quand c'est fini, des confinements et tout ce qui va bien, on recommence, et là, on retape sur les 1000 euros, et peut-être avec plus de monde, peut-être avec le soutien des clients, etc. Donc mes collègues m'ont dit, bon, allez, ok, t'as raison, 600 euros, c'est bien, c'est déjà pas mal.
Vous aviez juste... sur cette matinée là dans la vous aviez fait une banderole ou plusieurs
sur le drap, elles ont noté ce qu'il y avait écrit, notre vie ne vaut pas 1000 euros, encore moins 350 voilà. Et alors la phrase aussi sur laquelle j'ai insisté, c'est que donc eux avaient ça, ils voulaient pas avoir ça une prime, donc ils avaient ça une récompense. Et à un moment donné je lui ai dit, écoutez, nous ne sommes pas des enfants qui avons fait une bêtise à qui on va promettre une récompense s'ils sont sages. Je suis encore moins un chien à qui on va donner une récompense parce qu'il a donné la patte. Et du coup, il m'a dit, bon, là, si on dit gratification, ah, je lui dis, là, ça va mieux. Tout de suite, ça va mieux, j'ai une gratification. Ça me plaît, ça donne de la valeur au personnel.
Et ensuite, est-ce que vous avez, bah déjà, juste sur la victoire, vous avez, par exemple, les salariés qui n'étaient pas présents ou ceux qui n'étaient pas grévistes, ils ont été mis au courant rapidement, le bruit a couru.
Ouais, voilà, le bruit a couru très vite. Donc, au niveau du groupe, tous ceux qui avaient balancé des pétitions et qui n'avaient pas fait grève étaient contents du résultat. Les salariés autour d'eux étaient contents. Donc, et chez nous, bah, en fait, j'ai eu très peu de retours. J'ai eu deux retours, un bon, un mauvais. Un bon, où la fille nous a, remercier ceux qui avaient fait grève par le même. Et une qui, soi-disant, moi j'étais pas là, qui en plus l'a dit devant quelqu'un qui avait fait grève et qui a dit, oh, pour gagner 600 balles, c'est pas la peine d'en faire autant, parce qu'en fait, quand on calcule 350 plus le bon d'achat, 170, en fait, vous n'avez pas gagné grand-chose. Et là, étant donné qu'elle faisait pas grève, celle qui faisait grève, lui-là, qui a vraiment dit une chose magnifique, elle l'a dit, elle l'a regardé droit dans les yeux, elle l'a dit, ferme ta gueule. Tu comprends ça? Ferme bien ta gueule. Il n'y avait rien d'autre à dire, en fait. Alors, bien sûr, nous, on a des gens qui nous ont dit, ouais, vous n'avez pas honte, faire grève quand on voit les conditions de travail des soignants, eux ont rien. Mais je leur ai dit, mais chacun son patron. C'est qui leur patron? Moi, le jour où les soignants iront faire grève, s'ils ont besoin de soutien, je veux être là. Il n'y a pas de problème, je peux être là, je veux bien les soutenir, mais c'est pas le même combat. Moi, mon combat à moi, il leur apportera rien à elles, et elles, leur combat à elles, m'apportera pas, son point de vue santé, oui, mais financier, non. Donc c'est chacun son combat actuellement. Hein. Il faut même savoir qu'une caissière comme moi, qui suis à 30 heures, on gagne 1000 euros par mois, donc 600 euros. C'est plus qu'un demi de salaire, donc c'est bien, voilà, ouais, c'est très bien. Au-delà de la somme, ma victoire, c'était d'avoir eu toute l'équipe derrière moi, voilà, ça c'est important, d'avoir vu qu'elle était là, qu'elle m'avait pas laissé tomber, qu'elle m'avait soutenue, et qu'on s'était battu tout ensemble, voilà, ça c'était... Plus ma victoire à moi, ça.
Il est normal qu'il bénéficie d'une gratification et de cette prime défiscalisée.
Ferme ta gueule. Tu comprends ça? Ferme bien ta gueule.
Cette lutte au travail en temps de pandémie n'est pas un cas isolé. Et une carte participative et interactive se propose de construire une vue d'ensemble des colères et des résistances depuis le début du Covid-19. On retrouve la carte sur le site lepoint.ong.net.
Tiens, Féfé, mais qu'est-ce que tu fais?
Eh bien, je prépare mes affaires, je vais à la manif du 1er mai.
Ah ouais? Tu vas au Capitole?
Bah, je pense, ouais.
Mais t'as fait des attestations?
Ah, j'en ai fait plein.
Mais par exemple, est-ce que t'as fait déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle lorsqu'elles sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail?
Eh ben écoute, j'ai un emploi fictif chez une petite fleuriste, allée Jean Jaurès, pour pouvoir distribuer du muguet du 1er mai.
Ah ouais, stylé. Et par exemple, t'as déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, liste sur gouvernement.fr?
Eh ben, pareil, j'irai chez la fleuriste, allée Jean Jaurès, mais je m'achèterai du muguet pour moi-même.
Et la consultation et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés, consultation et soins des patients atteints d'une affection de longue durée?
J'ai pris un rendez-vous chez mon homéopathe muguetologue Rugan Bêta.
Mm-hmm. Et est-ce que t'as déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants?
Si jamais il me demande ça, je dis que j'irai acheter du muguet à ma riche tante Berthe qui habite rue des Lois.
Waouh. Et t'as déplacement bref dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, lié soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie?
Je vais te dire, si je dois courir, ça sera à cause des flics. Ils verront bien que je fais de l'activité physique.
L'industrie agroalimentaire continue de fonctionner à plein régime. Le fric rentre et les petites mains s'affairent avec des contrats qui n'en sont pas pour remplir la planche à billets et les comptes en banque haut placés. Les contours de l'héroïsme n'ont jamais paru aussi flous. La frontière entre chair à canon et héroïsme est ténue en ces temps de confinement.
Ok, je me présente. Mon nom c'est Alpha Omar Bari. J'ai 34 ans.
Toi en ce moment tu travailles pendant le confinement?
Oui, je travaille pendant le confinement dans une usine dans les périphéries de Toulouse. Dans une usine agroalimentaire. Je fais ça depuis le 17 mars passé, depuis le confinement, oui, bien sûr. Ben, je travaille du lundi au vendredi. Moi, dans cette usine, je suis préparateur de commandes. Nous préparons les commandes qui sont destinées pour la vente dans les supermarchés. Ben, une journée classique, là où je travaille, ça commence à 5h pile et ça finit à 12h30 la plupart du temps. Bon, moi, je suis en covoiturage avec un ami. Il vient me récupérer dans un point et après on revient ensemble. Donc pour l'instant, je n'ai pas rencontré de difficultés. C'est juste que l'heure à laquelle je bouge, les métros, les transports, ils n'ont pas commencé. Donc obligé que je trouve un covoiturage et tout.
Moi, mon boulot consiste à récupérer les colis et à les empiler sur des palettes que je filme après et j'étiquette. Donc du matin jusqu'à 10h15, c'est ce que je fais. Et à 10h15, je vais en pause. Je reviens à 10h45 parce que la pause, c'est une pause de 30 minutes. Et voilà, c'est une boîte de logistique. Donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Et en plus, c'est des shifts. Il y a le shift du matin, il y a le shift de l'après-midi et le shift de la nuit. C'est un peu ça, on fait 8 heures de temps. Donc déjà, il y a un effectif réduit et en plus, le travail il est un peu énorme qu'avant. Avant, il y avait plusieurs personnes pour la chose et là, maintenant, c'est quelques personnes. C'est pas pareil quand même, on ne peut même pas comparer. Et avec le risque qu'il y a, tout le monde va avec la peur au ventre. On se dit, est-ce que je ne vais pas ramener la maladie et tout. Donc ça seulement, c'est un défi. Donc pour moi, c'est incomparable. Nous, on fait tout ce qui est yaourt, charcuterie. Nous sommes dans la chaîne du froid à 2 degrés. Parce qu'il faut conserver les aliments. Il faut mettre beaucoup de vestes pour y aller. Et parfois, donc, comme le corps il est protégé, le froid il revient sur les mains. Tu as les mains qui gèlent. Tu es obligé d'aller à la toilette pour un peu t'asperger les mains d'eau chaude. Les équipements de protection, moi, je n'en ai pas reçu, mais j'en ai les miens parce que voilà. Par rapport à ma propre santé, j'essaie d'amener déjà un truc pour protéger mon nez. Je porte des gants et à chaque fois, je me lave les mains. Chaque fois, je vais à la toilette, j'essaie de laver les mains, de me laver le visage et de remettre le masque pour éviter les contacts avec mes autres collègues. Bon, pour les manteaux, depuis que je suis là-bas, je n'ai pas vu, mais même si on me les fournissait, bon, je n'allais pas les utiliser parce que je ne connais pas leur origine, je ne sais pas si quelqu'un d'autre les avait portés et tout. On a tous peur parce que quoi, on ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas. On ne sait pas si nous-mêmes, on n'est pas malade parce que voilà, par rapport à la maladie, quand on entend qu'il y a des gens qui peuvent l'avoir et sans qu'ils ne tombent malades et qu'ils peuvent la distribuer, des fois j'ai peur parce que je vis avec des gens. À chaque moment de ma vie, je me dis, si je ne suis pas victime, je peux être un distributeur, tu vois. Donc du coup, je prends des dispositions.
Est-ce que toi, tu as une couverture médicale?
Oui, là, j'ai la CMU. J'ai la CMU, la couverture médicale universelle. J'ai trouvé ce travail par rapport à un intérim, donc ils m'ont appelé. Mais voilà, c'est une question de contrat. C'est une semaine, deux semaines, ils te font un contrat d'une semaine, deux semaines. Parce qu'en cette période de confinement, les contractuels, ils ne viennent pas. Voilà, donc là, ils ont besoin réellement de travail, de travailleurs et tout. Donc ils nous font appel. Et après, je pense que si le confinement va se terminer, je ne sais pas qu'est-ce qui va comment ils vont s'organiser, s'ils vont libérer les intérimaires ou qu'est-ce qu'ils feront. Parce que voilà, c'est par rapport à une nécessité que nous, on est là, on travaille. J'appelle la nécessité, c'est par rapport en ce moment au fait que les contractuels, ils ont peur de contracter la maladie. Et vu qu'eux, déjà, ils sont assurés, ils peuvent ne pas venir. Même s'il y a des contractuels qui travaillent, on ne peut pas omettre ça. Il y a des contractuels qui viennent. Parce que voilà, c'est une question de... Il y a des gens qui sont habitués à travailler. Il y a des gens qui faisaient ça pendant des années. Donc, ils se voient mal arrêter le boulot. Par rapport à mes projets, oui, c'est une nécessité. Parce que voilà, je ne peux pas aussi rester là tout le temps à ne rien faire. Je préfère aussi aller travailler et voilà, et gagner ma croûte. Et aussi acheter des équipements parce que je fais du cinéma. Donc, du coup... C'est pour me procurer de matériels que j'ai besoin pour faire mon propre cinéma.
Est-ce que tu as des revenus, t'as des revenus autres ou tu as accès à d'autres revenus, d'autres formes de revenus, si tu ne travaillais pas?
Bon, si je ne travaillais pas, je n'espère pas avoir d'autres revenus parce que voilà, ici, ça ne tombe pas du ciel, l'argent. Donc du coup, il faut travailler parce qu'il faut vivre. Je travaille parce que voilà, d'une manière ou d'une autre, être sur la première ligne, c'est tout le monde ne peut pas rester à la maison confiné. Il faudrait déjà que d'autres y travaillent pour que la situation n'empire pas. Donc nous, on travaille pour que les personnes puissent obtenir aussi, déjà, puissent s'approvisionner. Et c'est un peu ça aussi l'objectif. Ce n'est pas juste que se faire de l'argent. Sinon, oui, c'est bien vrai que voilà, on a besoin d'argent, mais
Il y a aussi, comme on appelle, la nécessité. Les personnes aussi, il y a des personnes qui ne peuvent pas vraiment se procurer de nourriture si on ne fait pas le boulot qu'on fait. C'est une façon de se rendre utile, quoi, à cette période de pénurie où tout le monde se demande où mettre la tête.
Et avec tes collègues, ça se passe bien ?
Moi, j'ai pas assez d'amis là-bas parce que du coup, je ne parle pas beaucoup avec eux parce que voilà, je connais pas qui est qui, je connais pas ce que les gens ils viennent faire. On se parle, mais c'est juste que tu vas pas y passer toute ta journée parce que déjà, ce qui fait que déjà ils interdisent même la parole sur les bras, il y a une lumière et cette lumière, dès que le bras il est encombré, la lumière elle s'allume et dès qu'elle s'allume, ça interpelle directement le chef. Quoi, ils ne veulent pas que nous communiquions jusqu'à ce que la lumière s'allume. Donc moi, quand je viens, dès que j'arrive, voilà, je me concentre. Et voilà, j'essaie d'ignorer les autres. Mais après, il arrive que parfois que quelqu'un vienne te saluer ou te demander une bouteille d'eau ou je ne sais pas. Donc c'est là où il y a le dialogue. Sinon, il n'y a pas où nous venons. On ne peut pas abandonner le boulot pour venir se mettre à parler. Chacun se dit qu'il a envie de conserver ce boulot parce que en cette période, c'est pas facile de trouver un travail.
Là, il y a le Ramadan qui a commencé. Et du coup, ça va être travail plus Ramadan plus travail en temps de confinement, quoi, en temps d'épidémie.
Ouais, c'est pas facile, c'est un grand défi parce que il faut donner à fond. Même si tu es en Ramadan, le patron lui s'en fout. Lui il s'est dit que tu es payé, donc après c'est. Mais c'est moi qui m'arrange à ne pas que mon gène arrive à gêner le boulot que je fais. Donc j'essaie de dormir à temps pour ne pas que je parte au travail avec le sommeil lourd. Avant, quand on travaillait, on était obligé de boire à chaque fois. Là, du coup, tout est réduit. Donc voilà, c'est pas si facile que ça, mais on y arrive quand même. C'est un peu difficile parce que tu te débarrasses de certaines habitudes, boire, des fois manger, donc... Après, tu as besoin d'énergie. Donc, du coup, c'est pas facile. Mais après, vu que c'est un travail de chaîne, parfois, il arrive qu'on s'entraide, qu'on se donne un coup de main. Par exemple, si tu n'es pas trop débordé, tu vas aider les gens dans leurs défis aussi.
Il y a d'autres personnes qui font le Ramadan
Oui, à part moi, il y en a plein de musulmans. Il y en a plein qui font. Mais voilà, pour l'instant, je fais le travail que je fais parce que je n'ai pas une autre proposition. Du coup, pour l'instant, c'est eux qui m'ont offert une opportunité, je la saisis. Si j'ai pas d'autres propositions, oui, je vais continuer de travailler dans cette
Cause it's spiritual country. Tabu wala for daddy body. and balance it up on me.
À la chapelle, depuis le confinement, en fait, il y a plusieurs personnes en fait, de différentes assos, ou pas d'ailleurs, qui se sont regroupées en fait, au vu des besoins en fait, qu'il y avait dans les différentes réquisitions, squats ou personnes isolées qui n'ont plus aucun moyen, puisque beaucoup d'associations et des personnes qui œuvraient pour les aider en fait, ne font plus rien. Donc ils se sont retrouvés sans rien. Et donc du coup, les personnes se sont mobilisées ici en fait, pour essayer d'aider, de les aider.
Alors, en fait, depuis, la chapelle s'est organisée pour être le relais des points de distribution. Donc, il y a plein de points de collecte où les gens ont fait. Il y a eu des appels sur Internet et avec les outils qu'on a tous en commun maintenant. Sur Toulouse, il y a différents points de collecte. Ces points de collecte-là ramènent l'ensemble de ces collectes-là ici. Ici, le rôle, plutôt le centre, c'est le nettoyage. Donc on a vraiment l'envie que ça soit le plus safe, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas en termes de virus, de bactéries et tout ça, on essaie de vraiment de garder une chaîne et de distance quand c'est des personnes qui sont à l'extérieur et par rapport aux produits et aux aliments qu'on reçoit.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore.
Enfin, les gens qui sont en fait qui sont encore dans la rue ou dans des lieux je dirais qui ont été récupérés par des assos, des gens en fait qui se sont mobilisés, puisqu'en fait aujourd'hui en fait on peut clairement dire que la mairie, la préfecture et l'État n'ont rien à cirer en fait, donc ils les laissent dans des situations de merde. Donc du coup ils décident en fait d'y aller régulièrement, parce qu'il y a quand même des endroits, faut quand même le savoir, où il y a pas d'eau. Donc en fait, les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de moyens non plus de se chauffer, d'avoir enfin des frigos ou autre. Donc c'est quand même très compliqué pour eux, quoi. Et ça, en fait, ça les dérange absolument pas. Par contre, leur filer 3 euros en chèque service, hein, ça leur va très très bien, quoi. Ils s'en foutent de savoir qui c'est qui les distribue.
Ce qui se passe ici à la chapelle, c'est basé sur des groupes un peu d'autogestion. Pour répondre à la question de à qui va tout ça, en fait, c'est déjà des groupes qui existent en termes de collectif ou pas, mais où il y a déjà une idée de ce que c'est que l'autogestion et l'autonomie. Ouais, forcément, peut-être la mairie, elle est au courant ou pas. Ça, c'est en fait, c'est un peu son problème à elle. Le fait d'être, enfin, moi, ça fait pas longtemps que je suis à Toulouse, mais je connais assez bien le réseau. R-E-Z-O, le réseau.
Activisme, pacifisme, militantisme.
Et plutôt, ouais, moi, ce que je veux partager de cette expérience, en fait, c'est que les outils sont là, les outils ils existent, les expériences elles existent. Il y a du partage, je vais pas utiliser le mot de solidarité, je pourrais l'utiliser, on s'en fout. Mais par contre, la préfecture, la mairie sont très très au clair de la situation des gens hors pandémie. Donc pourquoi la situation changerait ? Ce qui fait que toutes les personnes précaires ou sans papier ou qui sont déjà dans des cursus quand il n'y a pas de pandémie, où il n'y a aucune rentrée d'argent ou quoi, ben, la chapelle, et avec cette collecte et avec cet appel aux dons et blablabla, elle a l'obligation de faire ça. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est obligé que ça se passe ici. Ça ne peut pas se passer ailleurs. Nos ennemis d'hier ne sont pas devenus nos amis d'aujourd'hui. Quand on est sans papier, par exemple, on dépend clairement de la préfecture. C'est la préfecture, notre république à nous. De la République, le lien avec les sans-papiers ou les personnes immigrantes, immigrées, c'est la préfecture. La préfecture, ce qu'elle fait en ce moment, je ne peux parler que pour Toulouse, c'est, je ne vais pas dire c'est un mot, c'est dégueulasse, c'est quoi ? C'est irresponsable. Le terme exact, ça serait, c'est irresponsable. On est des adultes, on est des grands, on sait très bien ce qui se passe, les chiffres, ils sont connus en vrai. On n'a pas besoin de chiffrer les choses et tout. Il y a plus de 5000 personnes dehors à Toulouse.
point barre.
Plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés.
Alors pour rebondir sur ce que disait la camarade et tout, il y a pas mal de jonctions, de convergences qui ont lieu ici à La Chapelle, notamment par rapport à la banque alimentaire, à des grosses structures en fait qui, comme on le disait au début et tout, étaient obligées de fermer, ne serait-ce que par rapport à la mise en danger de leurs bénévoles ou le fait que comment on fait ça sans autorisation ou avec autorisation, quelle attestation faut-il pour ça. Ce qui fait que La Chapelle, ouais, ça deal, ouais, j'ai bien dit ça deal, avec pas mal d'associations à côté. Ce qui fait que bah, y a des gens du DAL, il y a des gens de la banque alimentaire, on peut leur acheter des trucs à très bas prix. Pour répondre aussi à ta question, ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été achetées. Le dernier chiffre que moi j'ai en tête, c'est les dernières. Enfin, si on fait la globalisation de toutes les courses qui ont été faites, on a acheté pour environ 20 000 euros de denrées alimentaires, comprenant les denrées de première nécessité, c'est-à-dire huile, riz, pâtes, farine, œufs, rien de funky, rien de sexy. Du coup, vraiment pour pallier à tout ce qu'on ne peut pas récupérer ou tout ce qui, par exemple, la blague du jour, s'il vous plaît, là, faut le dire. La préfecture, une de ses premières mesures d'aide pour les personnes, la réponse qu'elle a donnée pendant plusieurs semaines, ça a été des sandwichs. Vous voyez les sandwichs triangles, là ? Les sandwichs triangles.
C'est d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd. Mourir dans une clairière sans tri. Pour ce pays, l'affiche et couleur sang. Et Manouchian vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde. Il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard. Le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil.
Et ouais, plutôt. Faut être hyper ouvert là sur ce qui se passe en ce moment à La Chapelle. De dire que c'est tout Toulouse qui y participe. Parce que les bénévoles des Restos du Cœur, les bénévoles du DAL, des banques alimentaires, de quelque association que ce soit, on est à un mètre de distance, on n'a pas de masque. Est-ce qu'on est asymptomatique, on n'est pas asymptomatique? On est tous avec ces questions-là dans nos têtes. Et du coup, il faut préserver un maximum la population. Donc, tu n'as pas de bénévoles, tu n'as pas de... La Chapelle, ça pallie aussi à ce moment-là où il n'y a plus personne qui a l'autorisation de sortir et qu'il y a des gens qui ont l'espace pour le faire. De la manière la plus safe, hygiénique ou distancielle possible. Quoi.
La cagnotte, elle a bien fonctionné. En fait, ils ont fait deux appels, un premier appel, et elle est montée assez vite. Les gens sont quand même très généreux. Et ils ont relancé un deuxième appel, et ça continue, en fait, continue d'y avoir des sous, ce qui permet en fait de se poser d'autres questions. Ils vont pouvoir acheter de la viande halal parce que il y a le ramadan qui commence. Ce sont des populations beaucoup qui consomment en fait de la viande halal, et donc du coup en fait ça nous permet aussi de faire ça, donc de sortir juste de la farine, des œufs et de l'huile qu'on continue à acheter, enfin qu'ils continuent à acheter, pardon, parce que c'est pas moi, mais du coup en fait ouais, ça commence, il y a quand même des choses qui commencent à être chouettes.
Et du coup, ça fait un truc de... C'est une demande. C'est pas genre on a de l'argent, on achète de la viande. C'est on a de l'argent, on demande les envies des collectifs. Pas forcément les envies, mais ce qui remonte comme besoin. En ce qui concerne la cagnotte, elle est encore en ligne. Je sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, ça. Mais concrètement, dans les chiffres, il y a déjà la moitié de l'argent qui a été clairement dépensé pour le premier mois de Confifi. C'est simple en fait, parce qu'il n'y en a pas 36 000. Vous allez sur le site Hello Association. Et en fait, ici, le nom de La Chapelle, c'est Notre solidarité n'est pas confinée. Donc Hello Association et Notre solidarité n'est pas confinée suffisent à trouver en premier sur Internet.
Des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous adhérer des luttes. Donc nous on prend Peter Pan, on va
va redevenir un...
En ce qui concerne les réunions, il y a une réunion de l'intersquat par rapport au collectif pour remonter les demandes et une fois par semaine pour voir comment c'est passé. Les distributions, elles sont au niveau de une fois par semaine sur chaque collectif. Après, il y a des personnes individuelles qui viennent ici et pareil, on leur demande de passer une fois par semaine. Comme ça, elles font leur pack pour une semaine. C'est compliqué de faire des courses pour un mois ou pour trois semaines. Donc, du coup, aussi, ça crée aussi un lien. Donc, les distribs, elles sont faites toutes les semaines. Une fois par semaine, il y a cette réunion de l'intersquad. Il y a d'autres réunions qui sont posées en fonction de, par exemple, on a fait une commission thunes pour pouvoir parler des thunes et de machin et tout. Il y a différentes commissions qui, selon les réunions, qui émergent pour répondre aux problématiques du moment. Je pense que aussi dans la conscience des gens et tout, on vit un moment hyper fort de c'est quoi être confiné et tout et tout. Et instinctivement, il y a, par exemple, moi, j'ai pas participé dans les premières semaines et tout parce que je me sentais pas encore. Je sais pas, comme on ne s'est pas fait tester les masques. Il y a vraiment des questions qu'on se pose, même quand on veut rejoindre le collectif et tout. Du coup, là, depuis une semaine ou deux, il y a plus de gens qui viennent. L'information, elle a plus tourné. Et en fait, il y a vraiment du monde tous les jours. Tous les jours, il y a du monde. Même des voisines qui passent pour déposer des denrées parce qu'elles ont vu le mot sur le portail. Il y a tous les jours du monde pour venir nettoyer, pour aider, pour faire les lots, pour décharger les camions, pour les recharger après. On a des listes de gens qui nous ont juste dit moi je suis disponible si vous avez un foirage pour un camion ou pour une voiture et tout et tout. Donc vraiment sans parler de chiffres ou quoi, ça tourne tarpin bien. Les gens ils sont en déconfifi petit à petit, ce qui fait que y a de plus en plus de monde et des gens vraiment hyper différents qui passent et tout, et c'est trop trop bien. Franchement, c'est trop bien de voir ça. Je voulais remercier toutes les donatrices, tous les donateurs, toutes les personnes qui ont pris de leur temps, qui sont passées ici. Des fois, moi, je suis en train de nettoyer des trucs et j'ai les larmes qui me montent. Je me dis waouh, on en est là. Franchement, on avance tout doucement, mais on avance ensemble. Donc, ça prend plus de temps, mais on avance. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai compris de la chapelle la semaine dernière, de tout ça. Des fois, on dit oh là là, le sens, pas le sens, qu'est-ce qui se passe, pas qu'est-ce qui se passe, avec quoi on deal, qui on deal et tout ça. Il y a tellement de questions. Mais ce qui se passe ici, c'est concret, c'est réel, c'est vrai, ça sert, c'est urgent, c'est important. Et on dirait que toute notre vie, c'est ça en fait.
Pas coincé nos rages entre le mérite et l'héritage. Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent à leur chaise musicale. Personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi. Angela qui fait une choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pâche de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des colons.